Voici une traduction en français de la conférence enregistrée numéro 6408C13 SHSBC 36 intitulée L'étude et l'éducation. Il s'agit d'une conférence donnée par Elron Hubbard le 13 août 1964 aux étudiants du Saint-Hill Special Briefing Course. Copyright 1964-1982, Elron Hubbard, tout droit mondial de reproduction réservé. Quelle est la date? Le 13 août, AD14, Saint-Hill Special Briefing Course, et voici une autre conférence sur l'étude et l'éducation. Vous vous êtes probablement rendu compte au fil des conférences que nous avons plus ou moins fait le tour du sujet, mais nous ne nous attendions pas à quelques-unes des choses que nous avons eues en prime. Comme je vous l'ai déjà dit, ce fut vraiment une chose étonnante et aventureuse que de prendre brusquement un sujet d'étude et d'application analogue pour étudier l'étude et découvrir quelque chose sur l'étude. Et cela pour vous éviter de vous intérioriser dans le sujet que vous étudiez, voyez. Je voulais donc un point de vue extérieur et j'ai étudié ce sujet analogue comme un simple novice qui cherche à progresser. Et j'ai donc étudié ce sujet d'un bout à l'autre, non pas comme un dilettante, mais avec acharnement, afin de devenir un professionnel. Oui. Il y a une énorme différence entre ces deux façons d'étudier. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est évidemment de mettre professionnellement en pratique ce que nous avons appris. Il nous faudra donc ajouter l'élément application pour vous aider dans ce domaine et dans cette sphère particulière. Ça ne semble pas grand-chose, mais le sujet de l'éducation a pour produit final l'accomplissement de certains faits, l'accomplissement de certains objectifs ou buts. Et une éducation qui ne va pas dans cette direction n'est bien sûr rien d'autre qu'une espèce de charlatanerie. C'est du dilettantisme pur et simple. Et la meilleure définition qu'on pourrait donner du dilettantisme, c'est « on n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit avec le sujet, si ce n'est énerver ses amis. » Et je ne qualifierais vraiment pas ce charlatanisme d'éducation. Je ne lui conférerais pas ce titre. Je dirais plutôt qu'il s'agit d'une activité qui consiste à familiariser les gens avec quelques données, ou bien avec un domaine, pour voir en quoi il consiste. Autrement dit, on se contente de se familiariser légèrement avec le sujet, sans se mouiller, ce qui, selon moi, n'est pas de l'éducation. L'éducation aurait pour objectif l'accomplissement professionnel de certaines actions. Le mot professionnel, c'est moi qui l'ai introduit ici. Mais si quelqu'un se dit éduqué dans un sujet, on attend de lui qu'il soit capable d'accomplir certaines choses avec ce sujet. Même s'il a reçu une éducation purement théorique, on attendra malgré tout de lui qu'il soit un bon théoricien. Donc, je définirais l'éducation comme quelque chose qu'on fait à fond. Et je dirais qu'il y a beaucoup d'activités qui passent pour de l'éducation et qu'on ne fait pas à fond. Je vous parle ici de la définition qu'on trouve dans un bon dictionnaire, voyez. Éducation signifie apprendre ou connaître ou appliquer le savoir d'un sujet donné. Eh bien, prenons cette définition à la lettre. On connaît le sujet si on est éduqué dans ce sujet. On connaît le sujet, point final. On est capable d'accomplir les actions qu'on vous a enseignées dans ce sujet. Vous êtes capable d'obtenir les résultats qui vous ont été enseignés dans ce sujet, voyez. C'est ça l'éducation. C'est plutôt risible de qualifier d'éducation l'enseignement moderne, parce que le pauvre gosse qui va à l'école, tout ce qu'on fait avec lui, c'est l'occuper. Pour moi, occuper un enfant n'a absolument rien à voir avec l'éducation. Pourtant, un sondage dans ce domaine a montré que la raison principale pour laquelle on envoie les enfants à l'école, c'est pour permettre à leur mère de souffler un peu. C'est la stricte vérité. C'est ainsi qu'on voit les choses. Eh bien, qu'apprend-on à faire à ce gosse? Tout de suite, voyez quels sont vos désaccords avec l'enseignement primaire, parce qu'on ne lui apprend pas à faire quoi que ce soit, voyez. Donc ce n'est pas de l'éducation, si vous prenez le mot au sens le plus strict. Le mot éduquer a fini par prendre un sens ésotérique et vague. Par exemple, vous dites « Il a été éduqué à Oxford. » Et alors ? Bon, très bien, il a été éduqué à Oxford, excellent. C'est un Oxfordien, parfait. Nous nous attendons à certaines caractéristiques et à certaines réactions en société, et ainsi de suite. Très bien. On lui a donné une éducation de gentleman. Très bien, c'est donc un gentleman professionnel. Voyez-vous, vous ne pouvez pas vraiment dissocier l'éducation d'un fait actif, d'un rôle et du professionnalisme. Il est impossible de dissocier ces choses et de dire « Eh bien, nous voulions lui donner une bonne éducation, pas pour qu'il soit capable d'accomplir quelque chose, mais pour qu'il... » Vous avez immédiatement une contradiction ici. C'est comme si vous disiez « Pour ramasser tous les pois blancs, il faut laisser tous les pois blancs par terre. » C'est impossible, vous voyez. Vous ne pouvez pas éduquer quelqu'un sans le moindre objectif en vue, parce qu'alors, il ne serait pas éduqué. Et c'est là la polémique dans notre société contemporaine. Le plus gros budget dans le monde, après l'armement, c'est l'éducation des enfants. Ça fait un sacré budget. Et qu'importe si les enseignants disent tous qu'ils sont sous-payés, ce qui est vrai d'ailleurs, il n'en reste pas moins que c'est une somme fabuleuse qui est déversée dans ce domaine particulier. Quand on voit l'étendue de ce domaine et toutes les actions de formation et d'éducation qui sont effectuées dans le monde, on se rend compte qu'il s'agit d'un investissement énorme. Presque tout le monde dans le monde occidental a fait l'objet d'investissements considérables pour son éducation. Ça en fait de l'argent. Ça s'élève à des milliers de livres par personne ou à des milliers et des milliers de dollars. Lorsqu'un jeune homme sort de l'université, quelque chose comme 10 000 dollars ont été investis dans son éducation. En fait, c'était il y a 10 ans. C'est un vieux chiffre. Aujourd'hui, le chiffre est probablement plus élevé. Ça fait beaucoup d'argent à investir dans une personne. Et peut-être pour rien. Très bien. Donc, on a dépensé beaucoup d'argent pour son éducation, mais est-ce qu'il est éduqué ? Non. Et c'est pourquoi il y a cette polémique. Voyez, on a dépensé plein d'argent pour son éducation, mais il n'a pas été éduqué. J'étais assez choqué l'autre jour de découvrir que mes enfants ne savaient pas écrire leur nom. On est en train de les « éduquer », entre guillemets, à une vitesse extraordinaire, mais ils ne savent pas écrire leur nom. Donc je ne dirais pas qu'on leur a appris à écrire. On ne les a pas éduqués dans le domaine de l'écriture. Peu importe ce qu'on leur a fait faire, peu importe le nombre de boucles qu'on leur a fait faire, si au bout du compte, ils ne sont pas capables d'écrire leur nom, je veux dire, il me semble que ce serait l'une des premières choses qu'un instituteur penserait à apprendre aux enfants. Qu'un instituteur dirait, vous savez, un enfant devrait être capable d'écrire, de signer son nom. Parce que franchement, c'est presque le critère qui permet de déterminer si quelqu'un est illettré ou non. Le gars qui arrive avec sa jambe de bois à bord d'un navire et qui signe son contrat d'embauche d'une croix est aussitôt considéré comme illettré. Peut-être qu'il sait écrire tout le reste avec une superbe calligraphie, mais s'il est incapable de signer son nom, il aura du mal à convaincre les gens qu'il n'est pas illettré. Donc il me semble qu'on devrait enseigner les choses essentielles en premier. Et quand j'ai découvert que mes enfants ne savaient pas signer leur nom, j'ai déclenché tout un remue-ménage, en insistant pour qu'ils apprennent à signer leur nom. Même les enfants en ont été tout bouleversés. Il ne leur était pas venu à l'esprit que s'ils savaient vraiment écrire, ils sauraient signer leur nom. Et ils en étaient incapables. Donc il y a beaucoup de failles dans ce domaine. Prenez l'arithmétique. Eh bien, on enseigne l'arithmétique en disant que c'est quelque chose de très très pratique dont on a besoin pour ne pas se faire rouler. Je pense que c'est là la vue la plus étroite sur un sujet qu'il m'ait été donné de rencontrer. Et pourtant voilà, j'en suis sûr, la raison fondamentale pour laquelle on enseigne l'arithmétique. Parce que les enfants m'ont patiemment expliqué ce point particulier. Donc on leur a enseigné qu'ils apprenaient l'arithmétique pour ne pas se faire rouler. Mais personne ne leur a jamais dit que l'une des façons de ne pas se faire de soucis à ce sujet, c'est de gagner suffisamment d'argent. Parce que regardez, si vous gagnez suffisamment d'argent, vous n'auriez pas besoin de connaître l'arithmétique, vu que vous n'auriez pas peur de vous faire rouler. Oui, il y a d'autres façons de présenter les choses. Je veux dire, il existe donc d'autres solutions pour cette histoire de se faire rouler. Bien que je vous ai proposé une solution loufoque, ici, il demeure qu'elle est absolument correcte. Midas n'a jamais eu peur de se faire rouler. Donc, à quoi cela nous mène, cet enseignement de l'arithmétique? Eh bien, je mets les professeurs d'arithmétique au défi de vous citer un objectif valable qu'on pourrait atteindre grâce à la connaissance de l'arithmétique. Ils diraient, eh bien, évidemment, on doit connaître l'arithmétique parce que c'est la base de tant d'autres sujets. Bon, très bien, ils nous parlent maintenant de l'enseignement d'autres sujets. Eh bien, nous ne sommes pas intéressés par les autres sujets, nous sommes en train de parler de l'arithmétique. Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'arithmétique? Nous demandons pourquoi les gens ne connaissent pas l'arithmétique. Eh bien, on n'arrive pas à apprendre l'arithmétique aux gens, parce qu'elle ne mène à rien. Vous dites, je ne veux pas être comptable, je n'ai pas envie de tenir des livres de compte, pour ne pas me faire rouler, je peux apprendre à compter sur les doigts. C'est élémentaire. Pourquoi apprendre l'arithmétique? On vous dit, eh bien, vous devez connaître l'arithmétique pour apprendre d'autres sujets. Non. Parlons de l'enseignement de l'arithmétique. N'allons pas nous tourmenter à propos d'autres sujets. On vous dit, évidemment, si vous mettez de telles restrictions sur la discussion, ça devient impossible de discuter avec vous. Vous vous dites, exactement, à quoi bon discuter? Ce que je veux dire ici, c'est que l'arithmétique, n'ayant aucune fin en soi, l'arithmétique a évidemment une fin en soi et on pourrait la décrire, mais comme personne ne décrit l'objectif bien déterminé de l'arithmétique, elle devient donc presque impossible à enseigner. Et les élèves des écoles secondaires se débrouillent presque tous très mal en arithmétique parce que ce n'est pas un sujet en soi. Donc, impossible de devenir éduqué en arithmétique. C'est extrêmement manifeste dans les universités. Je ne vous parle pas ici de quelque chose qui dépasse votre entendement. Ça saute aux yeux. C'est très évident. Vous allez dans une université, dans une école d'ingénieurs, et l'on vous fourre constamment des problèmes sous le nez que vous êtes censé résoudre par l'algèbre ou par le calcul infinitésimal. Alors que tous peuvent être résolus au moyen de l'arithmétique et du calcul mental. Voilà qui donne à réfléchir, non? Que s'est-il passé ici? Eh bien, comme l'arithmétique n'est pas un sujet en soi, et qu'elle a été quelque peu rabaissée et dégradée, elle s'est progressivement contractée et a cessé d'exister en tant que sujet. C'est simplement un sujet auxiliaire qui a son prolongement dans les mathématiques supérieures. Et si vous ne connaissez pas l'arithmétique, vous ne pourrez pas faire de mathématiques supérieures. C'est plus ou moins comme ça que c'est présenté à l'ingénieur. À une époque, je me suis beaucoup intéressé aux vieux McGuffey's Readers pour voir le niveau de connaissance en arithmétique qu'on exigeait déjà en 1888. Les problèmes qu'ils devaient résoudre en arithmétique étaient des problèmes d'algèbre. On attendait d'eux qu'ils résolvent des problèmes d'algèbre au moyen de l'arithmétique. Et vous savez quoi? Ce fut une grande révélation pour moi de découvrir qu'il était tout à fait possible de résoudre ces problèmes d'algèbre et tous leurs x et y au moyen de l'arithmétique la plus ordinaire et la plus banale. Et c'était bien plus logique comme ça. Bien plus logique. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai rencontré des vétérans qui prenaient une colonne de 10 nombres à 5 chiffres et qui les additionnaient d'une façon singulière. Ça me paraissait très singulier, une espèce d'addition croisée que je serais incapable de vous expliquer. Et ils vous donnaient presque une réponse instantanée. Et vous dites, comment vous avez fait? Et ils disent, eh bien c'est très simple, voyez-vous. 9 ajouté à quelque chose vous donne ce quelque chose. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est parcourir la colonne et trouver toutes les combinaisons qui font 9 et les jeter. Puis vous ajoutez ce qui reste et vous obtenez le total. Vous restez bouche bée, vous savez. Bon, il s'agit bien sûr d'un truc compliqué, mais ce genre de choses était une partie intégrante de l'arithmétique à l'époque. Et ce genre de choses n'existe plus maintenant en arithmétique. Où sont passées ces choses? C'est donc que le sujet est en train de disparaître. Pourquoi est-il en train de disparaître? Parce que personne n'en décrit l'objectif à l'étudiant qui l'étudie. Et même s'il existait vraiment un objectif, là n'est pas la question. Vous pourriez trouver un tas d'objectifs. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que personne ne décrit, ne dépeint, ne montre l'objectif du sujet à l'étudiant. Donc on ne peut pas considérer que l'étudiant acquiert une éducation en arithmétique. L'arithmétique est juste un sujet auxiliaire qui permet de ne pas se faire rouler. Donc, lorsque l'objectif d'un sujet se détériore, le sujet lui-même décline. Ça paraît très étrange de vous dire ça, mais lorsque l'objectif d'un sujet décline, ce sujet sort du domaine des connaissances humaines. La fabrication des fouets de cocher. Essayez de trouver quelqu'un aujourd'hui qui sache tout sur la fabrication des fouets de cocher. Il ne reste probablement qu'un ou deux gars en Angleterre qui connaissent le sujet de A jusqu'à Z et qui fabriquent tous les fouets de cirque. On ne fabrique presque plus de fouets. La profession est en train de mourir, parce qu'elle ne sert plus à rien. Les gens ne se servent plus de chevaux pour se déplacer, donc pas besoin de fouets de cocher. Donc vous iriez vous fourrer dans une sorte d'impasse si vous acquériez une éducation dans la fabrication des fouets, aujourd'hui. Ce ne serait pas une carrière très productive. Eh bien, cet exemple n'appuie peut-être pas beaucoup mon propos, mais prenons la chose à l'envers et vous verrez immédiatement que c'est très logique. Un sujet dont on ne décrit pas l'objectif va s'éteindre, non seulement au niveau de la société, mais aussi au niveau de l'individu. Ces deux affirmations sont vraies. La première est si vraie qu'elle en est presque absurde, mais la deuxième n'est pas absurde et on n'a pas remarqué ce fait. Si vous ne montrez pas à l'individu à qui vous enseignez un sujet quel est l'objectif de ce sujet, eh bien ce sujet s'éteindra chez l'individu. Il pourrait s'agir d'un objectif extraordinaire, mais si vous ne l'enseignez pas à l'individu, c'en est fini. Voyez ? Vous pouvez donc voir la différence entre un sujet vivant et un sujet mort. Un sujet vivant est un sujet qui a un objectif, qui sert à quelque chose. Et un sujet mort est un sujet qui ne sert à rien. Et il y a deux processus par lesquels un sujet vivant devient un sujet mort. Premièrement, il est de moins en moins employé, comme dans le cas des fouets de cocher. Ou bien deuxièmement, on l'omet dans les programmes d'enseignement. Et le sujet disparaîtra, non seulement au niveau de l'individu, mais aussi au niveau de la société. Pas seulement au niveau de la société, mais aussi au niveau de l'individu. Comprenez? Et nous devons supposer qu'on ne peut pas éduquer, selon la définition du mot éduquer sur laquelle j'ai mis l'accent tout à l'heure, qu'on ne peut pas éduquer une personne dans un sujet mort, vu qu'il ne mène à rien. Et vous verrez que les sujets morts deviennent une obsession pour certaines personnes. Vous allez avoir quelqu'un qui se met à étudier les miniatures hollandaises peintes par des peintres aveugles. Bon, les miniatures hollandaises, c'est un sujet qui peut servir. Mais les miniatures hollandaises peintes par des peintres aveugles, va vous falloir chercher loin pour trouver une utilité quelconque à ce sujet. Oh, vous pourriez toujours trouver quelque chose, mais n'allez pas gaspiller votre ingéniosité à essayer d'introduire un tel sujet dans le système d'enseignement. Parce qu'avec une telle attitude, vous allez vous faire du mal. La question est de savoir quels sont les sujets qui sont là. La question n'est pas de savoir quels sont les sujets que nous pourrions inventer et introduire. Oh, nous pourrions en inventer des sujets. Mais disons que nous avons ce bonhomme qui étudie ce sujet ésotérique, étrange, bizarre, inutile, qui ne mène à rien. Savez-vous que ça peut facilement devenir une obsession pour lui? Ce sujet n'a pas d'objectif, il ne sert à rien. Donc il est bien sûr impossible pour ce gars d'être éduqué dans ce sujet, parce qu'il ne pourra jamais montrer sa virtuosité. Il ne pourra jamais montrer à quoi le sujet sert. Qui l'écoutera? Il n'arrive même pas à en parler à ses amis. Ils disent, c'est un excentrique fini. Il parle tout le temps de... Il le juge un peu comme votre famille vous a jugé par rapport à la scientologie. Vous les dépassez complètement, voyez. Mais il y a bien pire que ça. Bien pire. Personne ne comprend de quoi il parle. Personne ne comprend pourquoi il étudie ce sujet. Ce sujet qui ne sert à rien et qui, de toute façon, n'est pas très intéressant. Eh bien, le pauvre gars ne pourra jamais communiquer ce sujet. Il ne pourra jamais le communiquer pour l'excellente raison que la communication devient difficile. En effet, personne ne veut l'écouter. Vous avez déjà pensé à cela, à la difficulté de communiquer parce que personne n'écoute? Eh bien, regardez ce que ça donne dans le domaine de l'éducation. Si le sujet n'existe pas et ne sert à rien, et si on ne peut pas l'appliquer, eh bien les gens cesseront d'écouter parce que le sujet ne leur sert pas non plus. Et vous avez ce gars qui étudie les miniatures hollandaises peintes par des peintres aveugles. Les gens disent « Eh bien je comprends pourquoi il étudie les miniatures hollandaises. Il est fou. » Ce serait leur conclusion immédiate, voyez. Eh bien, votre famille vous voit de cet œil-là, des fois. Vous êtes déjà heurté à ce genre de situation. Vous avez foncé tête baissée et les gens ne voulaient pas vous écouter parler de la scientologie, ou bien ça les énervait que vous étudiez la scientologie. Et c'était parce que vous ne leur parliez pas de l'objectif de la scientologie. Et vous ne leur avez pas parlé de l'objectif de la scientologie en disant ce qu'elle pouvait faire pour eux personnellement. Nous approchons du cœur du sujet ici. Il se peut que votre mère se soit intéressée à la scientologie quand elle a appris ce que la scientologie a fait pour vous personnellement, étant donné qu'elle s'intéresse à vous. Mais même votre mère ne considérera pas la scientologie comme un sujet tant que vous ne lui en aurez pas décrit l'objectif. Allons un peu plus loin maintenant. L'objectif que vous décrivez doit être réalisable. L'objectif que vous décrivez doit être un tant soit peu réalisable. Donc ce que vous faites ensuite, voyez, vous leur décrivez l'objectif, mais ils ne croient pas en l'objectif. Autrement dit, cet objectif n'est pas réel pour eux. Donc non seulement vous devez leur décrire l'objectif, mais vous devez le leur décrire de telle façon qu'il paraisse réalisable ou faisable. Vous allez vers ce gars et vous lui dites « Vous devriez éprouver beaucoup d'intérêt pour ce sujet parce qu'il peut vous rendre clair. » Et il vous répond aussitôt « Et ta sœur ?» Parce que ce n'est pas un objectif compréhensible. Voyez, l'objectif cesse d'être compréhensible pour la personne lorsqu'il lui paraît irréalisable ou dénué de valeur. Et un objectif peut cesser d'avoir de la valeur ou devenir irréalisable parce que personne ne le comprend. Donc si vous voulez qu'un sujet continue d'exister et d'être enseignable, ou si vous voulez que les gens soient éduqués dans ce sujet, si vous voulez qu'il continue d'exister, qu'il survive, il doit avoir un objectif qui, visiblement, est réalisable. L'objectif doit être réalisable. On doit pouvoir l'atteindre. Maintenant, un sujet a de la valeur. Un sujet a de la valeur dans la mesure où cela vaut le coup d'atteindre l'objectif formulé pour ce sujet. Est-ce que ça vaut le coup d'atteindre cet objectif particulier? Est-ce que ça vaut le coup d'être en mesure d'accomplir telle ou telle chose, ou est-ce que ça ne vaut pas le coup? C'est cela qui permet de déterminer si un sujet est superflu ou vital. Ce qui fait une culture, c'est son éducation. Et l'éducation est subdivisible. C'est l'éducation qui fait une culture et elle se subdivise en deux catégories générales. La seule chose qui maintienne une culture, c'est l'éducation. Que cette éducation soit empirique ou dispensée par le biais de l'enseignement, il demeure qu'une culture dans son ensemble est le résultat de l'éducation qu'elle dispense. Il y a deux catégories d'éducation dans une culture, celles qui sont vitales et celles qui sont sympas. Maintenant, la rémunération que vous recevez après avoir terminé une éducation est fonction de la valeur qui est attribuée à ce que vous accomplissez avec cette éducation. La rémunération que vous recevez pour votre éducation est fonction de la valeur qu'on attribue à ce que vous accomplissez avec cette éducation. Et franchement, vous ne recevrez pas un sou de plus. Il y a parfois des rémunérations incorrectes, mais ce n'est pas souvent, ce qui vous montre qu'il doit y avoir des choses extrêmement bizarres, car la règle que je viens de vous donner est vraie. Et la société dans son ensemble doit donc se tromper dans une certaine mesure, vu qu'il y a plusieurs éducations qui sont rétribuées royalement, alors que certaines autorités en matière d'éducation les considèrent sans valeur. Le public doit bien aimer se faire rouler. Les gens n'arrêtent pas de payer des gens qui abusent de leur confiance. Les gens doivent attribuer une très grande valeur aux espoirs fous que leur fait miroiter un courtier de bourse, vu que les courtiers reçoivent très souvent des sommes énormes. Vous pourriez réévaluer la société en vous appuyant sur ce que je viens de vous dire. Vous pourriez dire « Oui, eh bien, la société se trompe ici, la société se fait berner. » Eh bien, je ne pense pas que la société se trompe ici. Voilà quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé. Savez-vous que la profession technique à laquelle on attribue le plus de valeur aux États-Unis, c'est les pompes funèbres. C'est très très bien payé. Ils ont réussi à convaincre tout le monde que la personne aimée doit être enfermée dans un cercueil de bronze et le cercueil dans un caveau de béton armé afin qu'il n'y ait pas d'infiltration qui vienne troubler le repos de la personne aimée. Et ils ont réussi à convaincre le pays tout entier qu'il s'agissait là d'une loi votée par le Congrès, d'une loi locale. Et une enquête effectuée par le Congrès récemment a révélé que ce n'était pas vrai et qu'il n'existe aucune loi qui oblige une personne résidant aux États-Unis à être enterrée dans un cercueil. Pas même dans un cercueil en carton. Il existe des lois qui exigent que les gens se fassent enterrer, mais il n'existe même pas de loi qui exige qu'ils se fassent embaumer. Donc, vous pouvez enrouler tante Agnès dans une couverture et la balancer dans un trou, tant que vous avez un certificat de décès. C'est tout ce qu'il vous faut. Donc cette profession particulière, qu'est-ce qu'elle vendait? Qu'est-ce qu'elle vendait, cette profession particulière? Elle vendait une espèce de vie bizarre après la mort, pas vrai? Les gars de cette profession s'apparentaient à un culte religieux ou quelque chose comme ça. Et manifestement, des gens ont acheté la vie après la mort. L'une des choses les plus coûteuses que vous pouviez faire en Égypte, c'était mourir. Ça vous revenait très cher. Et c'est devenu comme ça aux États-Unis aujourd'hui. Ça coûte très cher de mourir. Une fois qu'ils en ont fini avec vous, il ne vous reste plus rien. Mais chose étrange, la société rétribue et récompense cette profession. Eh bien, c'est à peu près l'art le plus consommé qu'il vous ait été donné de voir. Les pompes funèbres constituent un art consommé. Et les entrepreneurs de pompes funèbres ont leurs propres écoles et une technologie qui leur est propre, et ils enseignent cette technologie avec beaucoup de rigueur et d'insistance. Et le résultat est extrêmement visible. Mais les gars de cette profession sont extrêmement brillants. Je le sais parce qu'à l'époque où j'étais écrivain à New York, le coroner était l'un de mes amis intimes. Il était coroner de la ville de New York, et c'était l'un des plus chics types qui soit. Il avait personnellement embaumé 15 000 cadavres de ses propres mains. Je m'étais pris d'intérêt pour ce domaine très particulier, parce qu'on m'avait envoyé écrire une série d'articles sur les crimes indétectables, et je me suis donc évidemment retrouvé en train de parler avec le coroner de la ville de New York. Et il a commencé à me donner une éducation dans ce domaine appelé médecine légale. Il connaissait son sujet sur le bout des doigts. La désinvolture avec laquelle il vous parlait de toutes ces choses montrait qu'il connaissait très bien le sujet. Ce n'était pas un sujet ésotérique. Ce sujet, c'était tout un tas de cadavres éparpillés un peu partout, plus ou moins déshabillés, plus ou moins amochés. Parfois, ils n'étaient pas très ragoûtants. Et c'était un personnage extraordinaire. Chose bizarre, il s'était mis dans la tête qu'il n'était pas acceptable socialement. Et comme personnellement, j'étais acceptable socialement, eh bien nous avons formé un très bon duo. Parce qu'il aimait bien, chaque fois que j'allais quelque part et que je lui demandais s'il avait envie de venir, il arrivait comme un bolide. Il arrivait à la vitesse du son. Mais il n'y avait absolument rien qui clochait chez lui, il avait de très bonnes manières, c'était le parfait gentleman, etc., etc. Seulement, quand on lui avait enseigné son sujet, on lui avait dit que c'était un sujet méprisé. Et c'est pourquoi il se sentait socialement inacceptable. Je ne sais pas, moi, mais les balayeurs de rue pensent qu'on les méprise, mais c'est grâce aux balayeurs de rue que les rues sont propres. Pas vrai ? De toute évidence, ce gars empêchait que les rues de New York soient couvertes de cadavres en décomposition. J'allais le voir, de temps à autre. Et j'étais président de l'une des sociétés d'écrivains là-bas, et il venait nous voir régulièrement et donner des conférences aux écrivains d'histoire policière, quand je lui demandais. Et ces écrivains quittaient la table avec un teint verdâtre des plus étranges. Mais je peux vous dire que ces informations avaient de la valeur. Elles avaient de la valeur et elles menaient à quelque chose de bien déterminé, ne serait-ce que dans le domaine de la détection. Ce gars vous disait d'un simple coup d'œil à un cadavre, protoxyde de carbone, ça fait environ 3 heures qu'il est mort. Cyanure, arsenic, etc., etc. Bing, toc. Oh, à mon avis, il s'agit de botulisme, Jeannot. Oh ouais, botulisme. Mets-le sur la planche, nous allons faire une autopsie. Moi, je suis sûr qu'il s'agit de botulisme. Tu sais, il a dû manger des haricots verts qui sont restés trop longtemps au congélateur. Mon avis, c'est ça. Et il met presque toujours le doigt dessus, voyez. C'était un art. L'art de l'observation, le monde de la mort. Mais même à l'époque de l'Égypte, cet art ne vous donnait aucun statut social. Les gars qui embaumaient des corps dans les tombeaux n'avaient même pas le droit de quitter le tombeau. Ils étaient enfermés dedans. Vous avez ici cet art considérable, cette quantité incroyable de détails, ce domaine suprêmement technique, et il nous vient tout droit de l'Égypte ancienne, ayant traversé toutes ces cultures et n'ayant jamais cessé d'exister. Chose intéressante, ce gars était capable de vous parler des qualités relatives de préservation de l'embaumement moderne et de l'embaumement égyptien. Et il était persuadé qu'il se débrouillait mieux que les Égyptiens. C'était la première fois que j'entendais ça, parce que vous avez vu ces momies égyptiennes dans les musées, et elles sont toujours là, bien enveloppées, etc. Mais son attitude envers la chose était celle du vrai professionnel. Leur trait n'avait pas été préservé, et leur teint ne valait rien. C'est ça qu'il m'a dit un jour. « Oui, la prochaine fois que tu vas au musée, Ron, jette un coup d'œil à l'une de ces momies, si tu ne me crois pas. Si tu ne crois pas que nous nous débrouillons mieux qu'eux, ces jours-ci. Leurs traits n'ont pas été préservés, et elles ont un teint minable. » J'ai dit, mais bonté divine, ces gars sont morts depuis des milliers d'années. Et il a dit, eh bien, dans quelques milliers d'années, les miens le seront aussi, et leurs traits seront préservés, et ils auront un beau teint. Il a presque dit, nous sommes capables de faire du meilleur boulot que celui que nous faisions à l'époque. Maintenant, je vous parle ici d'une profession relativement dépréciée, mais extrêmement lucrative, débarrasser les rues des cadavres et enjoliver les personnes aimées, et ainsi de suite. Bien, c'est une profession très très bien payée. Préserver la mémoire des morts est une profession très très bien payée. Et elle n'a jamais cessé d'exister. On l'exerce depuis très longtemps, et sa technologie n'a jamais disparu. Partout où il existait une civilisation, il semble que la technologie ait été transmise par la civilisation précédente, peu importe le nombre de guerres qui ravageaient cette civilisation. on appliquait cette technologie, quelles que fussent les circonstances. Tiens, même dans les rites des tribus anciennes, on partait à la recherche d'une cave sèche qui embaumerait automatiquement les corps des personnes aimées. Donc vous avez ici cette technologie très intéressante, c'est une sacrée technologie. Vous devez savoir quoi faire pour empêcher le cadavre de pourrir. Vous devez savoir de quoi la personne est morte afin de ne pas vous tromper quand vous l'embaumez. Vous devez savoir comment rendre le corps présentable et la façon dont vous allez l'enterrer. Et aussi la façon exacte de vous adresser à la famille affligée et de leur en vendre un maximum pour le maximum d'argent. Ce sont là des technologies, quoi que vous en disiez. Elles sont considérables et très exactes, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles aboutissent à un résultat. Vous prenez le corps, vous l'embaumez, vous l'enterrez, vous encaissez l'argent. Boum. Très facile à comprendre. Nous dirions donc que cette profession est non seulement rémunérée parce que les gens en ont besoin, mais aussi parce que le public la comprend. C'est une profession rémunérée parce que les gens la comprennent. Très bien. Maintenant, comment se fait-il que le sujet existe depuis si longtemps ? Comment se fait-il qu'il existe depuis si longtemps ? Eh bien, le besoin continuel d'un sujet et de son objectif peut préserver ce sujet. Un besoin continuel du sujet préserve le sujet. Si les gens continuent d'avoir besoin du sujet, ce dernier sera préservé. C'est un corollaire de ce que je viens de vous dire il y a quelques instants. Un sujet sera préservé aussi longtemps qu'on aura besoin de sa technologie et que celle-ci sera transmise. Voyez, il faut que les gens continuent d'avoir besoin de la technologie et que celle-ci soit en outre transmise. Et si on continue d'en avoir besoin, elle sera du même coup transmise. Fascinant. Et plutôt évident. Mais lorsque vous avez un sujet qui a traversé les millénaires, c'est uniquement parce que son objectif a survécu avec lui. Son objectif a survécu avec lui. Et cet objectif est compris. Maintenant, on pourrait détruire ce sujet en détruisant son objectif, on n'en a plus besoin, ou bien en détruisant d'une façon ou d'une autre la transmission de sa technologie, ou en transmettant sa technologie avec trop d'insistance et de force et en y ajoutant tout un tas de choses qui n'ont rien à faire là. Autrement dit, avant de pouvoir étudier l'ingénierie, il vous faut avoir terminé l'école secondaire, le lycée et une école préparatoire et avoir appris à tricoter. Vous ne serez pas surpris qu'on en arrive là. Vous n'allez plus avoir d'ingénieur après un certain temps. Les ponts commenceront à s'écrouler. Eh bien, l'une des raisons très élémentaires pour laquelle vous n'aurez plus d'ingénieur au bout d'un certain temps, il n'y a que dans notre propre technologie et nulle part ailleurs que vous trouverez cette raison, c'est qu'on lui a donné une piste d'envol trop longue. Sa course pour décoller a été trop longue. Et plus il lui faut de temps, revenons à l'éducation, plus il lui faut de temps pour aborder l'éducation qu'il veut suivre, plus il aura de chances de se heurter à des obstacles sur la piste d'envol. Nous pourrions probablement formuler cela d'une façon beaucoup plus simple, mais c'est à peu près comme cela que ça se passe. Si cet individu n'en finit pas de décoller, vous voyez, il est sur la piste d'envol et essaie de gagner de la vitesse, et tout le monde lui dit « Ne tire pas encore sur le manche à balai, tu dois rester sur la piste d'envol et poursuivre ta course en étant prêt à décoller, prêt à décoller, prêt à décoller. » Eh bien, quand il aura fait ça pendant 45 ans et qu'il constatera qu'il n'a pas décollé, il ne décollera plus. La raison en est que les chances d'échouer sont directement proportionnelles à la longueur de l'approche. C'est une loi. Les chances d'échouer sont directement proportionnelles à la longueur de l'approche, ou au temps qu'il vous faudra pour enfin parvenir à étudier ce que vous vouliez étudier. Maintenant, cette loi est vrai dans tous les cas. En effet, si vous n'étudiez pas quelque chose par gradient, vous pouvez vous casser la figure en prenant un gradient trop élevé, comme je vous le disais l'autre jour. Vous avez pris quelque chose de trop élevé, trop vite. Et quel que soit le sujet, il existe une piste d'envol d'une longueur appropriée. Il existe une piste d'envol d'une longueur appropriée pour un sujet donné. Donc une piste d'envol d'une longueur appropriée pour un sujet serait une piste d'envol qui ne serait pas longue au point de multiplier inutilement les chances d'échouer. Il vaudrait mieux qu'elle ne soit pas courte au point que la personne saute un gradient et se retrouve en pleine confusion. Et quelle est la longueur adéquate de la piste d'envol pour n'importe quel sujet donné? Combien doit-il y avoir d'actions préparatoires ou quelle doit être la longueur de l'étude? Voici la réponse à toutes ces questions. L'approche du sujet ne doit pas être longue au point de multiplier inutilement les chances d'échec. Elle ne doit pas être courte au point de mener la personne à un gradient trop élevé. La personne se cassera le nez, comme cela nous arrivait à l'époque où je faisais partie de clubs d'aviation à l'université. Il y avait beaucoup de jeunes gaillards qui commettaient l'erreur déplorable de tirer trop tôt sur le manche à balai. On appelait ce genre d'évolution un piqué. C'est un terme technique, un terme d'aviation. Vous décollez et vous n'avez pas pris assez d'élan pour que les ailes vous maintiennent dans le vide. Et vous n'avez jamais vu de spectacle comique qui vous soulève autant le cœur qu'un avion en piqué. L'avion vole à la perfection, et puis soudain, comme l'avion ne vole pas assez vite et que les ailes ne le maintiennent pas dans le vide, il plonge. Et ça va vite. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça un piqué. Et bien sûr, quand vous n'êtes qu'à 30 mètres environ, au-dessus de la piste d'envol ou quelque chose comme ça, eh bien vous ne prenez pas suffisamment de vitesse pendant votre chute pour pouvoir ramener le manche à balai et redresser l'avion. Et ce qui se passe alors, c'est qu'on envoie une notification à la famille et qu'on contacte mon vieil ami, le coroner de New York. Toujours est-il que voilà ce qui arrive à un étudiant. Voyez, il devient trop sûr de lui et ramène le manche à balai alors qu'il n'avait pas pris assez d'élan, que sa vitesse était insuffisante. Autrement dit, il prend un gradient trop élevé. C'est ça qu'a fait Marie-Sue l'autre soir. Elle apprend la dactylographie, comme si elle n'était pas assez occupée comme ça. Elle tape très bien la machine, mais elle a commencé à taper sans regarder le clavier, avec tous les doigts. Et elle va y arriver. Elle s'entraîne dur. Je lui ai administré un petit procédé d'éducation sur le sujet pendant un très bref instant, et j'ai réduit en miettes tous les obstacles qui l'empêchaient d'apprendre la dactylographie. Je ne sais pas si elle l'a remarqué, elle n'est pas ici en ce moment, mais elle n'a probablement pas fait le rapprochement entre son envie soudaine d'apprendre à taper sans regarder et le fait d'être venue à bout de cette histoire de piste d'envol trop longue et de gradient trop élevé. J'en suis venu à bout grâce à un procédé et maintenant ça l'intéresse énormément d'apprendre à taper sans regarder. Et chaque soir, en plus de toutes les choses qu'elle a à faire, elle passe environ une heure à marteler la machine sans regarder le clavier et avec tous les doigts. C'est très difficile pour elle parce que le reste du temps, quand elle se sert de la machine à écrire, elle tape avec deux doigts. Donc, d'un côté, elle apprend la dactylographie et de l'autre, elle tape avec deux doigts pendant qu'elle fait son travail. Et puis après son travail, elle se remet à la dactylographie. Je l'ai plongée dans la confusion l'autre soir. Je lui donnais un métronome et elle a soudain pensé que son rythme n'était pas en place, ce qui était vrai. Et elle était incapable de faire quoi que ce soit avec ce métronome qui marchait et elle a dit qu'il fallait tout de suite l'arrêter. C'était un gradient trop élevé. Mais elle a commencé à s'attaquer à deux rangées de touches avant d'avoir maîtrisé une rangée de touches. Vous voyez ce que j'entends par gradient trop élevé? C'était trop dur pour elle. Et qu'est-ce qu'elle a plongé? Elle est tombée en piqué sur le champ. Elle a sombré dans la confusion la plus totale. Autrefois, elle aurait tout simplement laissé tomber. Elle n'aurait pas été plus loin. Mais comme elle connaissait maintenant la technologie que j'ai réussi à développer dans le domaine de l'éducation, elle s'est renversée dans sa chaise et elle a dit « Bon, voyons voir, qu'est-ce que j'ai fait ?»« Ah oui, c'est dû tout simplement d'un gradient trop élevé. J'ai juste pris un gradient trop élevé. » Elle est revenue à une rangée de touches, toc 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 toc, tac tac tac, oui. Puis elle est passée à deux rangées et tout a marché comme sur des roulettes. Autrement dit, elle a passé ce gradient en souplesse. Donc une personne qui connaît ce fragment de technologie, peut s'en sortir sans problème. Personne n'avait eu à dire quoi que ce soit à Mauricio. Oui. Très bien. Donc un sujet d'éducation, c'est simplement quelque chose qui aboutit à un faire et qu'on approche en se le faisant enseigner. C'est fou de devoir dire ça, mais savez-vous que personne, ou presque, ne le sait. Les gens ne le savent pas vraiment. Ils essaient tout le temps de vous convaincre qu'ils le savent, mais ils s'engagent toujours dans des activités dans lesquelles ils se débrouillent très mal et échouent en beauté. Et ne leur vient jamais à l'esprit qu'ils n'ont jamais été éduqués dans le sujet. Je vais vous dire quelque chose qui me mettait régulièrement dans une rage folle à Hollywood. Du metteur en scène au superviseur de la production, en passant par les acteurs sur le plateau, tous savaient écrire. Ils connaissaient le métier d'écrivain. Ils étaient tous capables d'écrire des histoires. L'endroit était littéralement infesté d'écrivains. Vous voulez savoir pourquoi Hollywood n'a jamais dépassé le stade de l'école maternelle dans le domaine des scénarios? Tout simplement à cause de ça. Ils ne se sont jamais rendus compte qu'il s'agissait d'une technologie professionnelle qui s'étudie avec acharnement. Elle est extrêmement complexe et possède d'innombrables ramifications. Elle en fait une sacrée terminologie. Mais tous ces Zig étaient persuadés de savoir écrire. Ce n'est pas quelque chose qu'on étudie. Donc, bien sûr, quand un professionnel arrivait au beau milieu de tous ces personnages, et Hollywood a produit très peu d'écrivains professionnels, en fait, Hollywood n'en a pas produit un seul, ils viennent de l'extérieur et finissent très abattus. Et s'ils finissent complètement abattus, c'est parce que tout le monde là-bas connaît la profession de l'écrivain qui vient d'arriver. C'est un écrivain, vous voyez, un écrivain professionnel, il arrive, et tout le monde connaît sa profession. Eh bien, il ne va pas accorder au film le beingness nécessaire qui lui permettra de se rendre compte que le métier d'écrivain de scénario, de scénariste, comporte lui aussi certaines ficelles. Résultat, ces gens le trouvent un peu stupide, alors qu'il n'est pas stupide du tout. C'est tout simplement qu'il n'a pas appris cette branche spéciale de sa profession qu'il pourrait apprendre assez rapidement. Et comme à Hollywood, on ne s'en rend pas compte, on ne prend jamais la peine de lui apprendre à écrire des scénarios hollywoodiens. Et on n'a jamais pris conscience qu'il est nécessaire d'apprendre le métier d'écrivain. Et vous avez donc cette profession étrange qui est parfois rémunérée royalement et dans laquelle vous pouvez tout aussi facilement crever de faim. Une profession où les gens vous portent au nu ou bien vous ignorent complètement. Toutes sortes de contradictions, donc. Qu'est-ce qu'un écrivain professionnel? Eh bien, selon les critères établis, c'est quelqu'un qui a du succès et dont les œuvres sont publiées, ou du moins, lues ou vues. Mais de toutes les disciplines artistiques, c'est la plus dingue, car personne ne veut lui reconnaître une technologie. Pourtant, le gars qui a du succès, ça va beaucoup vous intéresser, le gars qui a du succès n'est pas quelqu'un qui est arrivé comme ça avec une bonne idée. Si vous allez à l'association des scénaristes, vous constaterez que si l'enseignement du métier d'écrivain est mal vu, c'est parce qu'il est dispensé dans les universités américaines. Et ils ont engagé tout un tas d'écrivains ratés, et les écrivains ratés deviennent soit directeurs de rédaction, soit professeurs. Et soit dit en passant, ils dramatisent leurs échecs, en essayant de faire échouer les écrivains. Ils ne font rien d'autre, d'après ce que j'ai pu voir. Pardon, il y en a eu quelques-uns qui ont travaillé d'arrache-pied et qui ont connu une réussite énorme dans tout ce qu'ils entreprenaient, mais ils ne s'étaient pas mis dans la tête qu'ils étaient écrivains. Par contre, tous les autres ont continué d'avoir cette idée saugrenue qu'ils étaient plus ou moins écrivains, alors qu'ils étaient directeurs de rédaction. N'avaient pas reçu une éducation d'écrivain, ou s'ils en avaient reçu une, ils avaient échoué. Voici un sujet où on joue à pile ou face. La société, tout entière, semble dépendre dans une certaine mesure de l'esprit romanesque et de l'imagination de l'écrivain. Mais c'est un sujet dont l'enseignement technique est profondément enfoui. Il n'existe pas d'enseignement technique dans ce domaine. Si un écrivain professionnel a envie de rire un bon coup, s'il a envie de se rouler par terre et de rire à s'en tenir les côtes, tout ce qu'il a à faire, c'est lire le programme d'études d'une classe d'écrivains à l'université de Princeton, par exemple. Il se tordra de rire. Il ne pourra pas s'en empêcher. Une fois, j'ai littéralement pétrifié une classe d'écrivains professionnels à l'université d'Harvard. Un professeur m'a dit plus tard qu'il ne s'en était jamais remis. J'ai commis l'erreur, j'étais très jeune et très impétueux, et bien sûr, quand on vous invite à donner une conférence sur votre profession dans une institution aussi ésotérique que celle-là, ça vous monte plutôt à la tête, et vous commencez à frimer un peu. Vous savez, surtout si vous êtes très jeune et impudent, et que vous vous appelez Ron. Donc j'étais debout devant cette classe d'écrivains et je leur ai dit « Je vois que le sujet que vous étudiez en ce moment est le style. Eh bien, aucun écrivain ne sait vraiment s'il a un style ou non avant d'avoir, j'étais très modéré, avant d'avoir écrit 200 000 ou 300 000 mots. À ce moment-là, il verra probablement dans son œuvre s'il a un style ou non. » Du point de vue d'un écrivain professionnel, c'était la déclaration la plus modérée qu'on puisse faire. Car pour un pro, même Dickens, 100 000 mots par mois, c'est de la bagatelle. C'est rien du tout. Je ne sais pas d'où vient cette idée selon laquelle tous les écrivains écrivent laborieusement en trempant leurs plumes dans leur propre sang et en se tordant de douleur. Ce n'est pas vrai du tout. S'il a fallu 7 ans à quelqu'un pour écrire un chef-d'œuvre, c'est parce que pendant 6 ans et demi, il n'a pas dessoulé. Les professionnels écrivent bien. Ils n'ont aucune difficulté à écrire. Ils ont la plume facile. Par exemple, Dickens a écrit la plupart de ses livres au rythme de 5 000 mots par jour. J'ai fait le calcul un jour, j'ai écrit un article là-dessus que j'ai donné à la presse, il a été publié dans la presse nationale, on voyait cet article un peu partout. Je suppose qu'on a bien sûr moins respecté ses œuvres après cet article. Cependant, un écrivain c'est quelqu'un qui sait écrire. Quelle meilleure définition pourrait-on avoir ? C'est quelqu'un qui écrit rapidement et avec facilité. Très bien. Eh bien, c'est ce que j'ai dit à ces pauvres bougres, assis là dans la classe, et j'ai remarqué comme un choc. Et très peu de temps après avoir dit cela, j'ai mis fin à ma conférence, et je n'ai presque pas reçu d'applaudissements. Ils sont restés là pétrifiés, comme des statues. Ils ne se sont même pas levés quand la cloche a sonné, et puis finalement il y en a eu un ou deux qui se sont tournés vers leurs voisins, ils se sont mis à marmonner quelque chose, et le professeur, qui était un chic type, est venu me chercher sur l'estrade, et il est sorti avec moi, il m'a dit « Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez semé le trouble en disant ça. » Je dis « Mais pourquoi, pour l'amour du ciel, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire ?» Il a dit « Mais mon vieux, ils écrivent 1500 mots par semestre. » Et ces gens étaient dans tous leurs états. Je suis retourné les voir, il n'y en avait pas un dans toute la classe qui voulait m'adresser la parole. Ils étaient dans tous leurs états. Il m'avait relégué plus bas que terre. Je ne pouvais pas être un pro, vous voyez. Pourtant, ce que j'écrivais se trouvait sur les présentoirs des kiosques à journaux. Mais ça devait être un coup de chance. Il y avait quelque chose qui clochait, parce que ce que j'avais dit ne pouvait pas être vrai. On n'avait jamais dit à ces Zig qu'il leur faudrait écrire. On leur apprenait tous à être écrivains, mais personne ne leur disait « Allez mon gars, écris !» Comprenez ? Et j'étais le premier à annoncer à cette classe, qui allait entamer sa 4e année, qu'un écrivain doit écrire. Je ne sais pas ce qu'un écrivain était censé faire, était censé discuter peut-être, ou faire ceci ou cela, mais pour eux, le mot succès était associé à un vilain mot, le mot travail. Pourquoi ? Parce qu'être un écrivain à succès, c'est beaucoup de travail. Ils ne dédaignent pas l'argent. Ne vous méprenez jamais sur leur compte. Ils ne dédaignent aucune des choses qui sont rattachées au succès. Ça ne les gêne pas d'être auteur à succès ou quoi que ce soit d'autre, non. Ils ne se cramponnent pas à leur art. Ils voient que c'est beaucoup de travail. Et pour eux, c'est beaucoup trop dur. Ils avaient donc étudié pendant 4 ans, et ils n'avaient même pas franchi le premier gradient qui est « Vous pratiquez le sujet ». Nous allons vous apprendre la céramique. Dans le domaine de la céramique, vous ferez des poteries et des objets en verre, et ainsi de suite. À la fin de ce cours, nous attendrons de vous que vous soyez capable de faire des poteries facilement et sans effort, et de reconnaître ce qui ne va pas avec les poteries mal faites. Et vous connaîtrez la technologie de la poterie. Quelqu'un arrive et vous dit « Vous enseignez un sujet drôlement polytechnique. » Quelque chose comme ça. « Non, non, pas du tout. Écrire, c'est du même ordre qu'abattre des arbres ou conduire des bulldozers. Et plus d'un ouvrier des ponts et chaussées n'a pas l'énergie physique requise pour écrire. C'est la stricte vérité. Le métier d'écrivain est un métier comme un autre. Et quand vous l'abordez en partant de ce point de vue, il devient raisonnable et compréhensible. Et vous allez alors vous mettre au travail. Un écrivain, ce n'est pas quelqu'un qui porte un fez rouge et des pantoufles bleues et qui fume la pipe et regarde fixement par la fenêtre. Un écrivain, c'est quelqu'un qui s'assoit à un bureau avec un stylo et du papier, ou avec une machine à écrire et du papier, et qui écrit. Qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit quelque chose qui sera publié, qui se vendra, et que les gens liront. Parce que par définition, un sujet, pour être considéré comme un sujet professionnel, doit être accepté par la société dans laquelle il existe. Eh bien, voici une façon terriblement froide et dure de voir les choses, une façon réaliste de voir les choses. Je n'exagère pas quand je dis qu'on ne mentionne pas ce fait à l'université. Les meilleurs professeurs diront « Eh bien, quand vous serez dehors un jour et que vous regarderez à travers la lunette de votre théodolite, n'allez pas dire que c'est de ma faute si vous n'arrivez pas à niveler. » Mais ce n'est pas comme ça qu'on enseigne. Après la classe, on tend un théodolite aux étudiants et on leur dit d'aller faire un relevé de terrain. Et on ne donne même pas de conférence sur ce qu'est un théodolite, parce que c'est un objet méprisable. Or, les choses qui sont inhérentes à l'ingénierie, ce sont les théodolites, les niveaux à lunettes, les grandes feuilles de papier à dessin, les plans, les briques, les morceaux d'acier, les machines, les bulldozers, les contremaîtres intraitables et les entrepreneurs douteux. Voilà les éléments de ce métier. On n'enseigne pas de cours sur la façon de rester éthique quand on travaille pour l'entreprise de construction Goupil et Fils. Autrement dit, l'enseignement n'est pas réaliste. Il vous parle d'une espèce de monde flou qui n'a jamais existé. Et c'est comme ça que j'ai choqué la classe d'écrivains à Harvard. Je n'ai jamais pu me figurer exactement pourquoi et comment je les avais choqués. Ce n'était pas parce que ma conférence avait été trop longue, bien que j'ai cru pendant longtemps que c'était là la raison. Mais maintenant, après avoir étudié l'éducation, je sais ce que j'avais fait. Tout ce que j'avais fait, c'est dire, si vous étudiez le métier d'écrivain, vous devez écrire. Vous êtes censé écrire. Vous êtes censé produire un certain nombre de mots. Et ce n'est probablement même pas les mots « Vous ne saurez pas si vous avez un style tant que » qu'ils ont choqué, vu que ma conférence était consacrée à ce sujet, c'est quand je leur ai finalement donné un chiffre pour leur expliquer ce que j'entendais par des mots sur une feuille de papier. Je me rappelle, j'étais sur l'estrade en train de faire le calcul rapidement. Je dis « Eh bien, je vais vous donner un tout petit chiffre que n'importe quelle personne dotée de toutes ses facultés serait capable de produire en quelques semaines. » Un chiffre qui ne fera peur à personne. J'ai donc dit 200 000 ou 300 000 mots. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait « Mais ce n'est pas ça qui les a mis en état de choc. C'est le fait que tout mon discours sur le métier d'écrivain se résumait à la chose suivante. Un écrivain écrit. » Le mot « faire » n'a rien de malpropre. Ce qui ne veut pas dire non plus que ça doit devenir une obsession. Le cours que je viens de suivre est très embrouillé. Les meilleurs professeurs dans ce cours sont des gens qui connaissent la théorie à fond et qui ont travaillé d'arrache-pied dans leur domaine, avec énormément de fer, et en en étudiant quantité de ramifications. Une telle combinaison vous donne quelqu'un qui s'y connaît. Quand il dit que telle chose est ainsi, c'est parfaitement plausible, parce que c'est absolument vrai. C'est très facile de reconnaître quelqu'un qui dit la vérité. Peut-être même qu'il n'écrit pas bien, mais il est capable de s'exprimer clairement parce que c'est son domaine et qu'il sait de quoi il parle. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui n'est pas capable de mettre son domaine en application, ça se verra. Il se disperse dans toutes les directions, vous parle de choses inapplicables, voyez. Il ne met pas l'accent là où il faut. Il ne vous parle pas des choses dont il faudrait parler dans le sujet. Il vous parle de quelque chose qui, selon lui, pourrait être intéressant, mais lui-même n'a pas l'expérience qui lui permette de dire si oui ou non ce quelque chose est d'une utilité quelconque. Vous voyez ? Il va faire une montagne d'un petit truc sans importance. Je suis tombé sur l'un de ces zouaves l'autre jour, en étudiant ce cours. Je ne me souviens plus de quoi il s'agissait, c'était lié à... Ah, ça y est, je me souviens, il s'agissait de la projection de diapositives. Et le gars disait que si vous aviez un écran à 2 mètres de distance et un écran à 4 mètres de distance, la lumière de votre projecteur était bien sûr moins forte sur l'écran éloigné de 4 mètres. Parce que la distance était plus grande, et donc la densité de la diapositive jouait un rôle très important dans la projection des diapositives. Et il fallait développer et tirer les diapositives avec un soin tout particulier afin de résoudre ce problème de différence d'intensité de la lumière. Vous voyez, l'un de ces zigotos qui était un peu plus ésotérique que les autres. Eh bien, Reg et moi, nous n'avions eu aucun problème à projeter de vieilles diapositives à une distance impensable sur un écran de 4 mètres sur 4, en plein air et par une nuit d'encre. Si nous avions écouté, si vous aviez écouté ce gars avec beaucoup d'attention, vous en auriez évidemment retiré l'impression qu'il n'avait aucune expérience dans le domaine. Il n'avait probablement jamais touché à une diapositive de sa vie. Vous savez, c'est une vieille technologie, la projection de diapositives, c'est le prédécesseur du cinéma. Mais ce gars n'avait probablement jamais vu de diapositive, et c'est pourquoi il insiste lourdement sur le fait que vous devez faire très très attention. Alors que ça n'a aucune importance. L'épaisseur de la diapositive n'a aucune importance aussi longtemps que la diapositive est regardable. La densité ou l'épaisseur de la diapositive n'a aucune importance. Si l'écran est trop éloigné, eh bien mettez une lampe plus puissante, un projecteur. Et le problème est résolu. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre une autre lampe. Autrement dit, ce n'est pas un problème que vous résolvez dans la chambre noire, vous le résolvez pendant la projection. Mais ça, il ne le savait pas. Il vous tartine donc cette demi-page laborieuse qu'il vous faut subir sur la façon de tirer les diapositives en ayant pris soin au préalable de vous assurer de la distance à laquelle elles seront projetées vu que cela fait une différence énorme. Oh, non, vous savez. Eh bien, si cet oiseau avait déjà projeté des diapositives ou s'il avait eu affaire à la projection de diapositives, il ne commettrait pas une erreur pareille. Et ce qu'il fait, donc, c'est mettre l'accent sur quelque chose de faux. Par conséquent, la connaissance véritable mettra l'accent sur les choses qu'il mérite, et la connaissance théorique mettra l'accent sur les choses qui ne le méritent pas. Et j'imagine que dans les universités, à l'heure actuelle, on doit mettre l'accent sur des légions de choses qui ne le méritent pas. Et vous pouvez tellement vous éloigner du sujet à force de mettre l'accent sur des choses qui ne le méritent pas, que sa technologie finit presque par disparaître. On met l'accent sur ce qui ne vaut pas, on met l'accent sur ce qui ne vaut pas, c'est rageant. Autrement dit, faites très attention maintenant au vernis de votre électromètre. Les électromètres ont une couche de vernis et nous allons, pendant les 3 semaines à venir, étudier le mode de fabrication des vernis pour électromètres. En d'autres termes, jusqu'où peut-on pousser l'irréalisme ? N'a absolument rien à voir avec le sujet. Sous prétexte qu'il y a du vernis dans une séance d'auditing, ça ne vous était probablement jamais venu à l'esprit jusqu'ici, qu'il y avait du vernis dans une séance, eh bien quelqu'un en fait une montagne. Il se dit que le vernis, c'est brillant, et que la lumière, en tombant dessus, pourrait détourner l'attention du préclair sur l'électromètre. Il a lu quelque chose comme ça, quelque part, il se dit que ça devait être vrai, mais en fait, un auditeur expérimenté vous dira qu'aucun préclair ne s'est jamais plaint de ça. Donc ce n'est pas un problème. Alors pourquoi le résoudre ? Donc voilà en quoi consistent ces irréalismes. Et en voici une définition très précise. Les irréalismes font leur apparition lorsqu'un système d'éducation enseigne des solutions à des problèmes qui n'existent pas, ou omet de résoudre des problèmes qui existent vraiment. C'est donc le juste milieu qu'il faut apprendre, et c'est par l'expérience qu'on y parvient. Prenez quelqu'un comme Gudson Borglum, le sculpteur américain qui a taillé le mont Rushmore pour y sculpter les têtes de Washington, Jefferson, Lincoln et Theodore Roosevelt. J'imagine que vous pourriez apprendre quantité de choses extraordinaires de ce personnage. Il doit connaître son métier sur le bout des doigts. Mais il exigerait de vous que vous possédiez une éducation complète dans le domaine des arts et de la sculpture avant de vous laisser approcher. Toujours est-il qu'il vous parlerait probablement de tout un tas de petits détails particuliers, du genre « Vous pouvez savoir si ce rocher ici est fissuré à cause de la décoloration que vous voyez ici. » Ainsi de suite. Et voilà une information extrêmement utile, voyez-vous. Il est en train de résoudre un problème qui en est un. Si vous commencez à tailler un rocher fissuré et qu'il fait crack, c'est catastrophique. Surtout quand vous n'avez que cette montagne-là à votre disposition. Impossible d'en commander une autre. Par conséquent, il s'agit probablement d'un problème très important. Maintenant, disons que Gudson Borglum a un nouvel assistant qui a reçu un enseignement complet sur la façon de sculpter des visages dans une montagne, mais que cet enseignement lui vient de quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie. Gudson Borglum est maintenant obligé de déséduquer son assistant, puis de le rééduquer, et le voilà donc avec environ deux fois plus de travail sur les bras, voyez ? On a appris à cet assistant que c'était très très mauvais de fumer en montagne parce que ça détruit le sens de l'esthétique. Ça n'a rien à voir avec le fait de tailler une montagne pour y sculpter des têtes. Et on ne se sert pas beaucoup de son sens de l'esthétique quand on sculpte des visages sur les flancs d'une montagne. On se sert surtout de grands marteaux piqueurs et de poudre explosive. C'est une activité très violente. Il y a beaucoup de mouvements et de masse et de fer dans ce métier. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie vous enseignerait des choses du genre « vous devez faire très attention à votre sens de l'esthétique », et ainsi de suite. Il essaie d'extrapoler sur un sujet qu'il ne connaît absolument pas. Et c'est très difficile d'enseigner un sujet que vous ne connaissez pas. Et bien que ce soit très difficile, c'est pourtant ce qu'on fait. Et dans de nombreux domaines, ça a donné une mauvaise réputation à l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur a acquis une très mauvaise réputation parce que les enseignants sont invariablement des gens qui n'ont pas pratiqué le sujet qu'ils enseignent. Et ce cours de photographie a été une sacrée leçon pour moi. Ces uluberlus, je les vois arriver à 10 km maintenant, quand je lis un manuel. Je me dis, c'est parti mon petit Ron, boum, nous allons maintenant résoudre toutes sortes de problèmes qui n'existent pas. Et nous n'allons pas avoir la moindre solution pour les problèmes qui existent vraiment. Et tout ça va être formulé d'une telle manière qu'il sera impossible de comprendre ce qu'il veut dire. Mais il va bien falloir que tu comprennes ce qu'il veut dire si tu ne veux pas rester bloqué sur ce sujet. Eh bien, n'est-ce pas un problème intéressant? Résultat, il vous faut 7 fois plus de temps pour étudier ça. Il vous faut facilement 7 fois plus de temps qu'il ne le faudrait. Le gars ne sait pas de quoi il parle. Mais vous, vous êtes obligé de savoir de quoi il parle, et vous devez donc lire son texte, puis essayer d'imaginer par vous-même ce qu'il veut dire, en vous appuyant sur votre expérience pratique. C'est ce qu'on appelle se moquer du monde. Par conséquent, tous les sujets, quel que soit le nom qu'on leur donne, mathématiques pures ou art pur, etc., tous les sujets doivent aboutir à un faire bien déterminé. À un faire très spécifique. Tous les sujets d'éducation dans lesquels on peut éduquer une personne, eh bien ce sont des sujets qui aboutissent à un faire spécifique. Et s'ils n'aboutissent pas à un faire spécifique, la personne ne finira pas éduquée dans ces sujets, même si elle les a étudiés très très longtemps. Maintenant, je ne dis pas ça uniquement à cause de la définition du mot « éducation ». Ce n'est pas moi qui lui ai donné ce sens. Je veux dire, vous pourriez étudier un sujet particulier et être de plus en plus dérouté et de plus en plus dérouté par ce sujet. Eh bien, ce n'est pas un sujet dans lequel on peut acquérir une éducation. Vous suivez ? Ce qui explique que vous soyez dérouté. Vous essayez d'acquérir une éducation et c'est impossible parce que le sujet n'aboutit pas à un faire bien déterminé. Donc tout ce qui mène à un faire spécifique, bien déterminé, à un faire mesurable, c'est-à-dire un faire comportant certaines limites et certaines actions, tout ce qui mène à un faire bien déterminé peut être enseigné. Autrement dit, c'est enseignable. Mais si un sujet ne mène pas à un faire bien déterminé, vous ne pourrez pas devenir éduqué dans ce sujet, même si vous l'étudiez avec acharnement. Parce que vous n'avez aucun moyen de vérifier si vous avez appris quelque chose. Ce sujet devient donc une complète signification dénuée de masse. Et lorsqu'on enseigne une technologie sans la masse qui y est liée, c'est dur pour l'étudiant. Lorsqu'on tente d'enseigner quelque chose en l'absence de sa masse, l'étudiant en souffre. C'est très dur pour l'étudiant. Il a une réaction physiologique. Il se sent écrabouillé. Il se sent véritablement écrasé. Il a le sentiment d'être voûté. Il a comme une impression de vertige. Ce sont toutes des réactions physiologiques et mentales. Il se sent comme mort, il trouve le sujet rasoir, il est exaspéré. Toutes sortes de sensations vont faire leur apparition. Il n'y a pas que l'absence de masse qui cause ce genre de sensations, ils s'en foutent beaucoup. Mais c'est ce qui arrive quand on étudie le faire de quelque chose en l'absence de sa masse. La masse est absente. Prenez, vous pourriez, en connaissance de cause, étudier un sujet qui ne mène à rien, et donc ne pas en attendre la moindre masse. Il est probable que ça ne vous dérangerait pas. Mais disons que vous étudiez les tracteurs et vous n'avez pas de tracteur. Pas de tracteur et vous étudiez les tracteurs. Des photographies vous aideraient. Des films vous aideraient. Ils seraient d'un grand secours parce qu'ils remplacent plus ou moins la masse. Ils promettent ou laissent espérer la masse, pourrait-on dire. Mais la page imprimée et le mot parlé ne remplacent pas un tracteur. Rappelez-vous bien de cela. Et je ne suis pas en train de vous redonner le vieil argument « bien sûr, nous savons qu'une personne doit avoir à proximité la chose qu'elle étudie ». Non, je ne vous parle même pas du domaine de la pratique. Si, n'allez pas chercher d'autres explications à cette donnée, parce que vous devez comprendre cette donnée dans sa pureté. Si on enseigne à une personne une masse qu'elle ne possède pas ou qui n'est pas disponible, cela produira des réactions physiologiques. C'est ça que j'essaie de vous enseigner. Je ne vous dis même pas qu'il ne faut pas le faire ou qu'il faut le faire. Je vous dis simplement que ça produit des réactions physiologiques. C'est un fait, rien d'autre. Vous comprenez ? Vous essayez d'enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur les tracteurs à ce gars, et vous ne lui donnez pas de tracteur. Eh bien, il finira par se sentir écrabouillé. Il va se retrouver avec des maux de tête, il va avoir l'estomac retourné, il va avoir des vertiges de temps en temps, très souvent il aura mal aux yeux, et ainsi de suite. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? C'est une donnée physiologique. Elle relève de l'auditing et du domaine du mental. Par conséquent, vous allez vraisemblablement trouver le taux de suicide et de maladie le plus fort dans les domaines d'éducation qui se consacrent le plus à l'enseignement de masses absentes. Pas bête, hein ? Et connaissant cette donnée, je peux donc vous dire exactement en quoi consiste le système d'enseignement français. Si des étudiants français étudiaient les bureaux, je suis sûr qu'on ne leur permettrait même pas d'avoir des bureaux dans la classe. Je pense que la première chose que le professeur ferait, ce serait d'enlever tous les bureaux qu'il y a dans la classe. Puis il se mettrait à enseigner la théorie des bureaux. Eh bien, l'une des façons dont vous pourriez vous tirer d'affaire, par exemple, je vous parle pendant ces conférences, donc vous voyez quelqu'un qui possède un mental, et vous voyez un corps qui est très vivant, par conséquent, vous avez davantage de masse, en fait, dans une conférence, que vous en avez dans un bulletin. Vous préférez probablement de beaucoup assister à une conférence qu'étudier un bulletin. Oui. Très bien. Ensuite, en seconde position, après la conférence en direct, la meilleure masse que vous pouvez avoir, c'est l'enregistrement sur bande et le son. Ce qui n'est probablement pas si mal. Mais quand vous parvenez au silence d'un texte imprimé, à la condition de nulle part, si je puis dire, d'un texte imprimé, c'est là que vous commencez à vous sentir mal. Et si vous étudiez quelqu'un sans qu'il ne soit jamais là, par exemple, est-ce que cela vous est déjà arrivé de lire un bulletin et de brusquement comprendre quelque chose au sujet du préclerc que vous auditiez? Votre première impulsion est d'aller le trouver. Eh bien, dans la mesure où vous ne le faites pas, vous allez être bouleversé. Vous avez dans le bulletin une masse appliquée, mais vous n'avez pas la chose à laquelle elle s'applique directement. D'où votre tendance à aller trouver cette chose. Très bien, vous devez savoir que ce phénomène existe, parce qu'il existe une autre série de phénomènes physiologiques qui se produisent quand on se heurte à un gradient trop élevé. Un gradient trop élevé en étude va causer une autre série de réactions physiques ou physiologiques. L'étudiant sombre dans une sorte de confusion, il a la tête qui tourne. Il s'agit d'une réaction physiologique distincte, bien distincte de celle provoquée par l'absence de masse. Je vous avoue que je n'ai pas pris la peine de faire un tableau qui dit que telle réaction est provoquée par telle chose. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on peut faire la distinction entre ces deux types de réactions. Et puis il y a la troisième réaction physiologique qui diffère complètement des deux autres. On peut s'attendre à trouver une série de réactions physiologiques complètement différentes quand on omet de chercher la définition d'un mot. Quand vous omettez de chercher la définition d'un mot, il s'ensuit une réaction bien précise. Le sentiment d'avoir un trou, d'être lessivé, de ne pas être là, suivi d'une sorte de nervosité hystérique. Voilà quelques-unes des réactions mentales et physiologiques qui font suite à un mot non défini. Ce que je veux dire, c'est que vous sauriez si quelqu'un vous enfonçait brutalement une épingle dans le bras ou s'il vous donnait un coup de marteau sur l'orteil, n'est-ce pas? Il s'agit de deux réactions physiques, de deux réactions physiologiques différentes, pas vrai? Eh bien, je viens de vous donner trois sources de réactions physiologiques à certains aspects de l'étude. Et pour chacun de ces trois aspects de l'étude, il y a un symptôme bien distinct. Je n'ai pas pris la peine de mettre tout ça sous forme de tableau, je ne l'ai pas encore suffisamment étudié pour le mettre sous forme de tableau, mais je sais les différences qui existent. Peut-être y a-t-il un quatrième et un cinquième type de réaction, comprenez? Ce n'est pas la classification définitive que je vous donne ici. Ces trois types de réactions, ce sont ceux que je connais. Je sais qu'ils existent, et je sais qu'ils sont importants. Donc vous avez le premier type de réaction, qui des trois produit le moins de bouleversements, mais qui produit les réactions les plus distinctes et les plus reconnaissables. Et vous vous demanderiez en vain ce qui produit ces réactions si vous ne le saviez pas. C'est-à-dire le fait d'étudier quelque chose sans jamais en avoir la masse ou l'espace qui l'occupe. Disons que vous étudiez un ciel et que personne ne vous permet jamais de regarder un ciel. Vous n'avez jamais eu de ciel à observer, quelque chose comme ça. Vous pouvez étudier un mental parce que vous savez qu'un mental n'est pas visible et qu'il contient un certain nombre de masses. Vous le savez. Il y a des mentales partout où vous allez, et il est parfaitement évident pour vous que vous êtes en présence d'un mental quand vous auditez le préclair. Voyez. Mais si vous étudiez ce sujet dans quelques tours d'ivoire autrichienne, ou à l'hôpital Bellevue de New York, ou dans un endroit comme celui-là où il n'y a pas de mental, vous vous retrouveriez très vite en train de manifester ces réactions. Et youf! Maintenant, la manifestation du blow provient du troisième phénomène, c'est-à-dire le mot mal compris, ou non défini. Voilà la cause des blows. Les deux autres phénomènes ne provoqueront pas forcément un blow. Ces deux phénomènes n'ont pas pour caractéristique de provoquer des blows. Il s'agit simplement de phénomènes physiologiques. Donc vous pourriez rendre un enfant malade, ou faire en sorte qu'il aille bien, dans le domaine de l'étude, Ce que je viens de vous dire vous donne toute une série de possibilités. Le petit Pierrot a un mal fou à apprendre l'arithmétique à l'école. Bien c'est clair, donnons-lui quelques pommes et attribuons un nombre à chaque pomme. Et il aura un certain nombre de pommes en face de lui, ce ne sera plus un nombre théorique de pommes. Donnons-lui la masse de ce qu'il étudie. Nous découvrons soudain qu'il a un problème, il y a des pommes et qu'on ne lui a jamais mis de pommes sur son pupitre pour qu'il puisse les compter, vous comprenez ? Nous remontons à la source de ses ennuis et nous constatons qu'il s'agit de l'absence de masse. Bien, nous pourrions lui fournir la masse. Cette vous donner le remède positif. Nous pourrions lui fournir la masse. Nous pourrions lui fournir un objet ou un substitut raisonnable et nous constaterions alors que nous aurions résolu le premier de ces phénomènes dont je vous ai parlé ici. Le remède au deuxième phénomène, c'est de faire revenir la personne en arrière. Vous devez trouver l'étape où elle n'était pas dans la confusion, la nouvelle action qu'elle a entreprise, je vous parle de faire ici, ou l'action qu'elle a bien comprise. Et vous devez trouver dans l'action qu'elle a bien comprise l'élément qu'elle n'a pas saisi. Juste avant de sombrer en pleine confusion, qu'est-ce qu'elle a bien compris ? Et nous constatons alors qu'elle ne l'avait pas bien compris. Ça se trouve juste à la fin de ce qu'elle a bien compris, et c'est là qu'elle a sauté un gradient. Vous voyez ? Très bien, mais ce phénomène s'applique principalement au domaine du faire. Et c'est là qu'il est le plus reconnaissable. On demande soudain à l'individu de manipuler son bouton de sensibilité. Il a regardé l'aiguille de l'électromètre se balancer de gauche à droite, et tout marchait comme sur des roulettes, et maintenant le bouton de sensibilité le plonge dans la confusion. Eh bien, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris dans le balancement de gauche à droite de l'aiguille. N'essayez pas de lui expliquer le bouton de sensibilité, parce que ce n'est pas le bouton de sensibilité qu'il comprend de travers. Il s'est heurté à un gradient trop élevé. Il a été trop loin. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait, et puis il est passé à autre chose. Et c'était trop ardu, et ça allait trop vite, et il va attribuer toutes ses difficultés à cette nouvelle étape. Donc voilà ce qui se passe avec les gradients. Maintenant, vous devez bien faire la distinction, parce que cette histoire de gradient sauté ressemble terriblement à cette histoire de mots non définis. Mais rappelez-vous que ces deux choses sont nettement distinctes. Cette histoire de gradient est bien plus prononcée dans le domaine du faire, bien qu'on la trouve dans le domaine de la compréhension. Mais c'est le faire qui nous intéresse quand nous parlons de gradient, voyez ? Où nous avons une suite bien établie d'actions. Nous avons une suite bien établie d'actions, le gars doit faire telle chose, puis il doit faire telle chose, et puis il est censé faire telle autre chose, et ainsi de suite. Et nous découvrons qu'il nageait en pleine confusion durant la deuxième action, eh bien nous devons en conclure qu'il n'est jamais sorti de la première action. C'est ça l'approche par gradient. Et il y a toute une série de phénomènes qui l'accompagnent. Et cette histoire de gradient ressemble terriblement à cet autre phénomène. Mais celui-ci a beaucoup plus d'importance que cette histoire de gradient, que vous rencontrez uniquement dans l'éducation proprement dit, et nulle part ailleurs. L'autre phénomène, le troisième, est bien plus important que les gradients, car c'est lui qui fait les relations humaines, le mental, les sujets. C'est lui qui est à la base du talent, des aptitudes, du manque d'aptitudes, c'est l'élément que les psychologues testent depuis des années. Il s'agit tout simplement de la définition des mots, du mot mal compris. Tout ou presque peut être ramené au mot mal compris. Et ce dernier produit un tel panorama d'effets mentaux qu'on peut affirmer qu'il est la cause première de la stupidité et la cause première de beaucoup d'autres choses. Si une personne n'avait pas de mot mal compris, peut-être aurait-elle du talent, peut-être n'en aurait-elle pas, mais son faire serait présent. Voyez, elle ne peindrait peut-être pas de chef-d'œuvre, mais en tout cas elle peindrait. Dans son cas, être capable de peindre un chef-d'œuvre serait une question de sensibilité. Il lui faudrait ajouter ce petit quelque chose de plus. Nous ne pouvons pas dire que Jean et Roger peindront aussi bien si tous deux n'ont aucune aberration dans le domaine des arts. Et ce serait une supposition déraisonnable. Mais nous pouvons dire que l'aptitude ou l'inaptitude de Jean à peindre repose entièrement et exclusivement sur sa connaissance des définitions. Je répète, entièrement et exclusivement sur sa connaissance des définitions. Lorsqu'une personne se débrouille comme un pied dans le monde des arts, c'est à cause d'un mot qu'elle n'a pas défini ou compris dans ce domaine. Elle est ensuite incapable d'agir dans ce domaine. Voilà une donnée très importante car elle vous dit ce qui arrive au fer. Et pour rétablir le fer chez quelqu'un, il suffit de trouver et clarifier le mot mal compris, la définition mal comprise. C'est un procédé très rapide qui permet d'obtenir en très peu de temps des résultats énormes. Cette technologie est extrêmement simple. Elle fait son apparition aux niveaux inférieurs parce qu'il le faut. Elle sera probablement décrite au niveau 1. Et puis il vous faudra l'apprendre et l'appliquer au niveau 2. Et on continuera de s'en servir au niveau supérieur. Mais ce n'est pas parce qu'on la trouve aux niveaux inférieurs qu'elle n'est pas importante. Ça signifie qu'elle doit absolument être présente au tout début de la scientologie. C'est tout ce que cela signifie. Mais c'est une découverte fabuleuse, une découverte d'envergure dans le domaine de l'éducation. Ne la négligez pas. Elle vous permet de remonter jusqu'au sujet que la personne ne comprend pas, ou bien jusqu'au sujet voisin qu'elle mélange avec celui qu'elle étudie. Et vous comprendrez pourquoi le psychologue n'arrive pas à comprendre la scientologie. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche avec la scientologie, c'est parce qu'il y a absolument tout qui cloche avec la psychologie. Il n'a jamais compris le moindre mot de psychologie, et il est donc incapable de passer à la scientologie. Voyez ce que je veux dire. Eh bien voilà qui ouvre les portes de l'éducation. Et bien que je vous ai parlé de cette découverte en dernier, il s'agit de la plus importante. D'accord ? Merci.